Chapitre 2. Clara à Nathanaël. Il est vrai que tu ne m'as pas écrit depuis bien longtemps, mais je crois néanmoins que tu me portes dans ton cœur et dans ta pensée. Car je devais te préoccuper bien vivement lorsqu'au moment d'expédier ta dernière lettre à mon frère Lothaire, tu y mis mon adresse au lieu de la sienne. J'ouvris la lettre avec joie et je ne m'aperçus de l'erreur qu'à ces mots. « Ah, mon bon ami Lothaire !» J'aurais dû alors ne pas continuer à lire et remettre la lettre à mon frère. Mais à toi qui m'as reproché maintes fois dans nos taquineries d'enfant d'avoir une âme tellement tranquille et un caractère de femme si posé que la maison menaça-t-elle de crouler, je redresserai encore comme cet autre avant de fuir un faux pli dans les rideaux des croisées. J'ose à peine te certifier que le début de ta lettre m'avait profondément ému. Je pouvais à peine respirer, j'avais des éblouissements. Ah, mon bien-aimé Nathanaël, que pouvait être ce qui influait sur ta vie d'une manière si terrible? Ne plus te revoir, être séparé de toi? Cette idée me déchira le sein comme un coup de poignard. Je continuai à lire. Ta description de l'affreux Coppelius est effrayante. J'ignorais jusqu'à ce jour de quelle mort affreuse et violente était mort ton bon vieux père. Frère Lothaire, à qui je remis sa propriété, chercha à me rassurer, mais il n'y réussit guère. Le fatal marchand de baromètre, Giuseppe Coppola, me poursuivit tout un jour, et j'en suis presque honteuse. Mais il faut bien en convenir, mon sommeil même, toujours si franc et si paisible, fut troublé de mille rêves déraisonnables et de visions étranges. Bientôt pourtant, et dès le lendemain, je vis les choses sous un aspect plus naturel. Ne te fâche donc pas, mon bien-aimé, si tu apprenais par Lothaire qu'en dépit de tes singuliers pressentiments sur la funeste influence de Coppelius, j'ai repris ma gaieté et ma sérénité d'esprit ordinaire. Je t'avouerai franchement qu'à mon avis, tout le naturel et l'horrible dont tu fais mention n'ont de fondement que dans ton imagination, et que la réalité des faits y a bien peu de part. Le vieux Coppelius devait être sans doute repoussant. Mais on conçoit que son aversion pour les enfants vous inspira à votre âge, pour sa personne, un profond sentiment d'horreur. Alors le terrible « homme au sable » du comte de la nourrice se confondit dans ton esprit d'enfant avec le vieux Coppelius, et celui-ci resta à tes yeux, quoique tu ne crusses plus à l'homme au sable, un spectre diabolique pernicieux, surtout pour les enfants. Ces menées nocturnes et mystérieuses avec ton père n'avaient probablement d'autre but que des expériences alchimiques auxquelles ils se livraient en commun. Ta mère ne pouvait en concevoir que du chagrin, puisque cela devait inévitablement absorber beaucoup d'argent, sans profit, et qu'en outre, ainsi qu'il résulte toujours, dit-on, de ce genre de travaux, le cœur de ton père a donné tout entier à ses idées spéculatives, y sacrifiait ses affections de famille. Il est presque certain que la mort de ton père est l'effet de sa propre imprudence, et que Coppelius n'en est pas responsable. Crois-tu que j'ai interrogé hier l'apothicaire, notre voisin, versé dans ces sortes de choses, pour savoir si les expériences chimiques pouvaient produire une explosion capable de donner ainsi la mort immédiatement? « Oui, certainement, m'a-t-il répondu. » Et il m'a décrit à sa manière, avec force détails et particularités, comment cela pouvait arriver, mêlant à ses explications tant de noms hétéroclites que pas un ne m'est resté dans la mémoire. Tu prendras en pitié ta pauvre Clara, je t'entends dire. Cette âme de glace n'est accessible à aucune impression de l'élément mystérieux qui souvent entoure l'homme de ses rayons invisibles. Elle ne voit du monde que la brillante superficie et se réjouit comme l'enfant à l'aspect du fruit dont l'enveloppe dorée couvre et recèle un mortel poison. Ah, mon bien-aimé Nathanaël, crois-tu donc que le pressentiment d'une puissance inconnue qui cherche à s'emparer de notre propre conscience, à notre préjudice, ne puisse se révéler aussi aux âmes sereines, tranquilles et insouciantes? Mais pardonne-moi si je m'avise, moi, simple fille, de vouloir me rendre compte de cette espèce de combat intérieur. Je pourrais bien ne pas trouver toujours les mots convenables, et tu te moqueras, non pas d'une pensée peut-être absurde, mais de ma maladresse à l'exprimer. Existe-t-il une puissance occulte capable de prendre sur notre âme un ascendant tellement perfide et malfaisant qu'il nous entraîne dans une voie périlleuse et de désastre, qui sans cela nous fût restée inconnue à jamais? Si cette puissance existe, il faut alors qu'elle s'assimile à nous-mêmes, qu'elle devienne, pour ainsi dire, notre propre essence, car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons y ajouter foi et la laisser maîtresse d'accomplir son œuvre mystérieuse. Mais si, doués d'un esprit assez fort et d'une conscience inflexible, nous apprécions constamment le maléfice d'une pareille influence, et si nous poursuivons d'un pas tranquille la route que nous ont tracée notre nature et nos inclinations, alors cette puissance occulte succombe en de vains efforts pour nous susciter un ennemi sous l'apparence d'un fantôme à notre image. Il est hors de doute, ajoute Lothaire, que cette puissance occulte matérielle, quand nous avons accepté son joug, fascine souvent notre imagination au sujet de certaines figures étrangères que nous rencontrons par hasard dans le monde extérieur, de telle sorte que, par une illusion magique, ces figures nous semblent animées d'un esprit dont nous sommes nous-mêmes le véritable mobile. Ainsi, notre propre image altérée, mais intimement unie au moi réel qu'elle tient sous sa dépendance, tantôt nous plonge au fond des enfers, tantôt nous ravit jusqu'aux cieux. Tu vois, mon bien-aimé Nathanaël, que frère Lothaire et moi, nous avons approfondi la théorie des puissances et des forces occultes, laquelle, depuis que j'en ai formulé non sans peine les points sommaires, me semble extrêmement ardue. Je ne comprends pas bien le dernier raisonnement de Lothaire. Je ne fais que soupçonner ce qu'il pose en principe. Et cependant, il me semble vaguement que tout cela doit être absolument vrai. Je t'en supplie, chasse tout à fait de ta pensée le vilain avocat Coppelius et le marchand de baromètres Giuseppe Coppola. Sois persuadé que ces individualités étrangères n'ont aucune influence sur toi. Ce n'est que la croyance à leur fatalité qui peut, en effet, leur donner ce caractère à ton préjudice. Si chaque ligne de ta lettre ne portait l'empreinte de l'exaltation excessive de ton esprit, si ta situation ne m'affligeait pas jusqu'au fond de l'âme, en vérité, j'aurais beau jeu à plaisanter sur l'avocat au sable et sur le brocanteur en baromètre Coppelius. Tâche de te distraire, de la gaieté. Je me suis proposé de remplir l'office de ton génie protecteur, et si le vilain Coppola s'avisait de te tourmenter dans tes rêves, je compte le chasser sans répit par un grand éclat de rire. Je n'ai pas la moindre frayeur de lui, ni de ses points velus, et l'avocat ne me gâterait pas plus une friandise que l'homme au sable ne me fait craindre pour mes yeux. Pour toujours, mon bien-aimé Nathanaël, etc.